Alors, je vais intituler ce sujet auquel je pense déjà depuis assez longtemps, le véritable enjeu de ce que commémore Hanouka, c'est-à-dire de la victoire des Maccabées contre les Grecs. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la description du moment, des événements et des différents problèmes qui se sont posés aux Judéens, qui étaient Israël de ce temps. Les Grecs d'Israël, c'était la Judée, et nous sommes au temps du Beit Sheni, puisque vous les avez déjà en mémoire. J'aurais simplement à m'y référer, si c'est nécessaire, analyser tel ou tel point plus particulier. Mais le sujet auquel j'ai pensé en préparant cet exposé, c'est ce qu'était le véritable enjeu de la victoire des Maccabées, de la lutte des Maccabées contre les Grecs, et qui a été sanctionnée par la victoire des Maccabées. Nous savons déjà, c'est une remarque qui me semble que nous avons gardé en mémoire pendant toute cette étude, nous savons déjà que au moment de la victoire, la victoire a été positive. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, disons ponctuel, bien qu'il ait pris un certain nombre d'années, l'espace au moins d'une génération, il y a eu un événement qui est commémoré par la fête de Hanouka. Et ici, le mot de Hanouka a le sens de inauguration. C'est-à-dire le fait qu'on a pu réinaugurer le service du temple après qu'il ait été rendu impur par, nous allons voir plus en détail encore tout à l'heure, par l'objectif des Grecs dans leur lutte vis-à-vis de la Judée, contre la Judée, vis-à-vis de la Judée, comme nous allons voir dans le texte. La Judée a été, autant des Grecs, comme cela a été plus tard d'ailleurs aussi, autant des Romains, un cas particulier, un problème spécial qui a été posé aux empires de ce temps. Les empires de ce temps avaient l'habitude, une fois leur conquête opérée dans telle ou telle province, dans tel ou tel pays, d'intégrer la culture de ce pays dans l'ensemble de l'Empire. Que ce soit l'Empire grec d'ailleurs à sa manière, que ce soit l'Empire romain à sa manière. Et c'était d'ailleurs une des habitudes culturelles de ce temps-là, puisque le modèle se trouve déjà dans ce qui s'est passé en Perse. Et la fête de Pourim et l'événement qu'elle commémore est de nature différente de la fête de Hanouka et l'événement qu'elle commémore. Mais malgré tout, c'était déjà le même principe, une tentative d'intégrer dans un ensemble d'empires donnés les différents peuples qui étaient conquis. Et déjà, au temps des Perses, il y a un problème particulier vis-à-vis de la communauté juive qui était en exil en Perse. Et ceci, c'est le problème de Pourim et de la Megillat Esther, je le rappelle pour mémoire. Mais en particulier, au temps des Grecs et au temps des Romains, c'était inassimilable. Et donc, le véritable enjeu de cette lutte des Maccabées contre les Grecs, au-delà de l'événement ponctuel de la victoire qu'on pourrait définir comme étant le fait de retrouver l'indépendance politique étant la clé, en principe, de l'indépendance tout court, et donc aussi de pouvoir garder sa personnalité propre. Le mot m'échappe en français, mais vous comprenez l'idée. De pouvoir être autonome, souverain, maître de sa propre histoire, de sa propre identité. Nous allons voir que au-delà de l'événement de la victoire, qui, je le répète, a été un événement ponctuel, commémoré par Hanouka en tant que Hanouka est la fête de la réinauguration du temple. Il y a derrière cela une lutte beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus profonde, de laquelle je voudrais parler ce soir, dans cet intitulé « Le véritable enjeu de l'événement de Hanouka ». C'est que l'Empire grec, ou la culture grecque de ce temps, a pris acte que l'identité Israël de ce temps, c'est-à-dire les Judéens, était inassimilable au projet impérial de l'Empire grec, et par conséquent, il y a eu une tentative de dénaturer l'identité judéenne elle-même. Je dis judéen pour être fidèle à la précision historique, mais à partir de maintenant, je pourrais dire Israël, puisque le sujet est beaucoup plus profond. Et Et c'est pourquoi je voudrais surtout parler en me basant d'un des enseignements du paradis Yitzhak, qui, je vous rappelle, Rav Yitzhak Lutner, qui est mort il y a quelques années, et qui est un des principaux, peut-être le plus grand commentateur du Maharal de notre temps. J'aurais dû dire qui était, mais je l'ai dit au présent, parce que tant qu'on l'est vivant, il est présent, et que j'ai eu d'ailleurs le privilège de connaître personnellement, et qui a mis en évidence un deuxième sens du terme de Hanouka, dont déjà le Rav Kook, dans son enseignement, avait déjà abondamment parlé. C'est que Hanouka renvoie donc à la notion d'inauguration, mais aussi à la notion de chinour, c'est-à-dire d'éducation. Alors c'est le deuxième niveau dont nous allons parler avec le texte que je vais vous lire simultanément en hébreu et en français et expliquer sur les points où il y aura nécessité. Il me faut encore quelques phrases pour que je retrouve le phrasé français. Vous avez remarqué que mon français n'est pas français ce soir. Et je voudrais donc introduire cette étude par le thème suivant. C'est un enseignement du Maharal sur le verset de base concernant l'éducation et qui est Hanoch Lanahar Alpidarko Vegam Kiaskin Loyasu Mimena. Je traduis, c'est un verset très important pour comprendre la conception juive de l'éducation. Éduque le Nahar. Nous avons étudié hier dans le cours de Paracha la notion du Nahar. Alors je traduis comme on traduit habituellement. Le jeune homme, l'adolescent, ça veut dire celui qui est en train de s'éveiller à la conscience adulte. Nahar. Et éveille, et éduque l'enfant, alpidarko, selon son chemin, de telle sorte que même lorsqu'il vieillira, vegam kiaskin, loyasu mimena, il ne s'en écartera pas. Il y a deux significations du verset. Le pshat direct, c'est que si on donne une éducation réussie à un enfant, et pour que cette éducation soit réussie, il faut emprunter la méthode éducative qui est propre à son tempérament, à son caractère, à son identité, à son derech, à sa manière de se conduire, en général. Puisque l'objectif de l'éducation, ce n'est pas d'assujettir l'enfant a une éducation perpétuelle, mais au contraire d'aboutir à cette inauguration du fait qu'il devienne majeur. Et à partir du moment où l'enfant devient majeur et fonctionne comme homme par lui-même, alors c'est le signe que l'éducation a réussi. Je pense que ce thème doit vous être familier, c'est suffisamment clair. Donc il y a une opération, un mahasé, qui est le chinour, et qui, s'il réussit, se transforme en Hanouka, si j'ose dire, le fait qu'on inaugure la majorité de l'enfant que l'on a éduqué à partir du moment où il devient adulte et peut fonctionner comme homme par lui-même, ça veut dire que cette éducation a réussi. Le secret de ce verset, c'est qu'il ne faut pas que l'éducateur impose son derech à lui, à l'enfant, mais l'inverse. Il doit imposer le contenu du chinour, mais adopter le derech de l'enfant. C'est le secret de la réussite d'une éducation. Ceux qui ont étudié la Torah de Lubavitch savent que c'est le verset de base par lequel commence l'enseignement du Tanya, d'ailleurs, en posant une question que le pshat même du verset pose. Qu'est-ce que c'est que cette éducation qui semble, comment dire, abdiquer l'autorité de l'éducateur et prendre l'enfant comme éducateur alors qu'il doit être l'éduqué? Comprenez quelle est la question. Donc ça, c'est le premier pshat. Mais il y a un deuxième pshat qui apparaît. C'est que l'éducation ne réussit que si l'enfant, devenu adulte, devenu zaken. Et zaken, ça ne veut pas dire simplement vieux, ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de maturité. Ceci aussi, on l'apprend d'autre part. Zaken, ze kana chorma. Donc on peut être zaken très jeune, de la même manière qu'on peut être nahar très âgé. Je referme la parenthèse. Et c'est la lecture qui apparaît là, c'est Hanoch lanahar lefidarko vegam yaskin lo yasu mimena. Et ce derech là, il s'agit du chinour lui-même. C'est-à-dire, il s'agit d'une éducation perpétuelle. Si l'éducation qui a été donnée a réussi, Alors cet enfant, même devenu Zaquée, ne s'écartera pas de cette éducation-là. Et est-ce que la différence de cette lecture est suffisamment sensible? Non? Alors je reprends l'analyse. Le premier pshat, c'est Hanoch l'anahar lefi darko, éduque l'enfant selon sa voix, veuilleux, selon sa manière de se comporter à lui. Résultat, gam ki askin yasu mimena, même lorsqu'il grandira, même lorsqu'il deviendra âgé, il ne s'écartera pas d'elle. De quoi il ne s'écartera pas? De l'éducation qu'on lui a donnée une fois pour toutes. Il y a là une opération qui, une fois pour toutes, transmet une certaine identité. Si cette identité est transmise de façon efficace, c'est-à-dire en tenant compte de la personnalité de celui à qui on la transmet, alors l'éducation réussira. Et c'est un événement irréversible, même lorsque le Nahar ne sera plus Nahar mais Zaken, il ne s'écartera pas de cette éducation qui lui a été donnée. Donc, ça c'est la première lecture. Et pour préciser un peu plus, à partir du moment où cette indication est transmise, eh bien elle est irréversible et l'éducateur n'a plus rien à voir avec l'éduqué. Il a réussi, l'éduqué est devenu adulte. Alors dans la deuxième lecture, c'est que si l'éducation a réussi, eh bien, l'enfant qui deviendra Zaké ne s'écartera pas du chinour lui-même et non pas du contenu de connaissances qu'on lui a transmis. C'est-à-dire, il continuera dans la voie de cette éducation. Si c'est suffisamment clair, je peux avancer, mais je n'ai pas l'impression que c'est encore suffisamment. C'est vrai ? Il continuera à être, ça j'ajouterai après, mais il continuera à s'éduquer lui-même dans cette voie d'éducation, même une fois devenu adulte. Il ne s'écartera pas du chinour, non pas en tant que contenu, instruction, mais en tant que formation, éducation.
Pareil. Change d'éducation, c'est ainsi.
C'est ça. On pourrait le dire comme ça. Et alors le deuxième chat est quand même beaucoup plus profond parce que ça rend compte de la deuxième partie du verset. Le gam qui askin. Le gam est expliqué par la deuxième lecture. Même lorsqu'il deviendra Zaken, il ne s'écartera pas de cette voie éducative. Parce que dans la première lecture, ce gamme est inutile. Puisque, à partir du moment où il est devenu Zaken, la question de savoir s'il s'écarte ou ne s'écarte pas de l'éducation qu'on lui a donnée n'aurait pas de sens. Parce que s'il s'en écarte, c'est que l'éducation n'aurait pas réussi. Or, l'objectif du verset, c'est de parler du cas où l'éducation a réussi. Donc, c'est la deuxième lecture qui est beaucoup plus profonde. Et alors, à partir de cette lecture de Hanor, le Nahar, les filles d'Arco, En relation avec les deux sens du mot Hanouka, inauguration, et d'autre part, chinour, éducation, je ne vais pas revenir sur l'analyse précédente, ça nous prendrait trop de temps. Il y a aussi d'autres nuances que le Maharal avait indiquées, que le Paramisrak reprend. Eh bien, en relation même avec l'événement de Hanouka, on s'aperçoit qu'il y a eu deux enjeux dans le même événement de la victoire des Maccabées contre les Grecs. D'une part, Hanouka, la réinauguration de l'identité hébraïque au temps des Judéens, alors qu'elle avait été, subjuguée, non, opprimée par les Grecs. Et rappelons-nous que l'objectif des Grecs n'était pas de supprimer la Judée, mais d'en dénaturer la spécificité de telle sorte de pouvoir l'intégrer dans un empire universel, entre guillemets. C'était la prétention de l'empire grec. Rappelez-vous, je crois que là, il y a un principe extrêmement important. Dans toutes les tentatives impérialistes, dans le sens étymologique, je ne pourrais pas dire impérial en français, c'est plutôt impérialiste, dans le sens étymologique, on se rend compte que l'empire en question a la capacité d'intégrer toutes les manières d'être homme, leur culture y compris, suivant les stratégies des différents empires, sauf une, Israël. Ça reste toujours réfractaire. C'est ce que nous avons vu tout au début de l'analyse. Je crois qu'on pourrait faire le bilan de toutes les tentatives d'universalisme et on s'aperçoit que c'est une règle sans exception. Il y a place pour toutes les identités humaines, sauf l'identité Israël, à moins qu'elle n'accepte de se dénaturer. Je prendrai un seul exemple qui me semble le plus massif. On pourrait prendre l'exemple de la Révolution française, d'ailleurs. Mais c'est encore trop près de nous, il faudrait trop d'analyse. C'est le christianisme. Le christianisme apparaît dans son idéal comme un idéal d'universalisme total. Eh bien, toute manière d'être homme peut être sauvée du salut de l'Église, sauf les Juifs. Vous avez remarqué ça? C'est pourquoi, à moins qu'il y ait des conditions de dénaturement de l'identité. Et nous verrons d'ailleurs ce cas-là dans le principe général de ce qu'on appelle un moumar, c'est-à-dire un membre du peuple d'Israël qui n'est pas rachar. Rachar, c'est celui qui fait des transgressions de son identité, mais il reste Israël. Mais qui est moumar, c'est-à-dire qui dénature son identité. Et la question qui va être posée, est-ce qu'il perd son identité Israël ou pas? Rappelez-vous le principe, Afralpi Shehata Israelhu. Afralpi Shehata Israelhu, ça veut dire même si un Israël a fait une faute, il est Israël. C'est dans toutes les fautes de comportement. Mais si ça atteint l'identité, alors ça c'est la question qui va se poser. Est-ce qu'un moumar fait encore partie d'Israël? Est-ce que c'est clair la question? En hébreu et en français. Ken? Alors nous verrons, je vous le dis à l'avance pour aller vite dans l'analyse. Nous verrons que d'après cet enseignement, le moumar en question ne fait pas partie d'Israël, mais sa descendance continue à faire partie d'Israël. C'est la grande différence entre rachar et moumar. Et dans la perspective de Afapi, Shabba, Israël, bon. Moumar, les hamir, ça veut dire renégat. Mais le mot est faible en français. Les hamir, ça veut dire vraiment changer d'identité. Se dénaturer du point de vue de l'identité. Au fur et à mesure qu'on étudie, on s'aperçoit à quel point aucune langue n'arrive à traduire exactement l'hébreu. Même les langues les plus nuancées, comme par exemple le français. Si je dis renégat en français, ça renvoie à toute une perspective intellectuelle qui est décalée, différente de celle auquel renvoie le mot de moumar en hébreu. Bien que les mots au niveau du dictionnaire, se traduisent l'un l'autre. Parce que, peut-être ça vaut la peine d'ajouter quelque chose à ce sujet, l'identité Israël, disons l'identité juive, l'identité hébraïque, mais je préfère dire l'identité Israël, c'est plus clair, eh bien, l'identité Israël, c'est pas une question d'adhésion à des idées. C'est une question d'identité dans le sens strict, c'est une manière d'être homme, c'est au niveau de l'être que ça se définit, beaucoup plus qu'au niveau du contenu de la personnalité de cet être. Vous voyez, c'est un problème pas simple. Je veux dire, du point de vue de la halakha, si quelqu'un est moumar, ben, sa descendance, par les femmes, bien sûr, est juive. Bon, il y a des régularisations d'identité. Si, par exemple, le fils d'une femme juive qui est devenue chrétienne, ou la fille d'une femme juive qui est devenue chrétienne, revient au judaïsme, on ne la convertit pas. Il y a un acte légal de Kabbalat Mitzvot, mais qui n'est pas une conversion. Tant que l'enfant n'a pas fait cet acte de Kabbalat Mitzvot, il est dans le cas d'Israël Moumar. Mais s'il demande sa place en Israël, il a sa place en Israël dans le principe. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait, seulement il faut régulariser. Je pense que dans les temps qui viennent, là vraiment j'anticipe, hein, ce que je dis là, méfiez-vous pour vos cassettes, c'est pas du tout halakha. Mais dans les temps qui viennent, je pense que ça sera le cas pour les enfants de mariage mixte. Que la cérémonie de conversion des enfants de mariage mixte deviendra de plus en plus de l'ordre de la régularisation. Bon, c'est un problème pour lui-même, simplement je fais une échappée de ce qui est une des préoccupations profondes des tribunaux rabbiniques actuellement. C'est un problème qui devient énorme du point de vue de la quantité et qui devient de plus en plus sérieux en Israël même. C'est un des points de Mihou Yehudi en discussion, un des points. Le cas des enfants de mariage mixte qui veulent revenir au judaïsme. Vous voyez qu'on est piégé par les mots. Qui se considèrent comme juifs. Est-ce qu'il faut les convertir ou pas? Eh bien, comme j'ai étudié cette question dans la halakha, eh bien, je crois qu'il s'agit d'un des niveaux du giyour, et qui n'est pas le giyour que nous connaissons actuellement, et ce qu'on appelle Kabbalat Mitzvot. Et je vais vous dire une chose, et on referme cette parenthèse, il y avait 7 procédures de conversion radicalement différentes l'une de l'autre. La conversion absolue s'appelle Ger Tzedek, celle qu'on pratique de nos jours depuis des siècles. Mais au temps de la société hébraïque, il y avait 7 genres de guérir. Et un seul, on demandait Shmirat Mitzvot complète, c'est le Ger Tzedek. C'est pourquoi Ger et Ger Tzedek, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Quelle? Et il n'y avait pas de mariage entre un guerrier et un Israël, entre un guerre tzedek et un Israël, oui. Il y avait une sorte de mariage, mais ça aussi, il y a 2 sortes de mariages différents, on n'en connaît plus qu'un seul, mais je ne vais pas commencer à vous ouvrir des portes dessus.
La situation de guerre
tzedek,
c'est la plus marquée.
La situation de guerre tzedek, qu'est-ce que c'est la plus marquée?
Par le point de vue de la procédure de
Il y a une humra dans le niveau de la Shmirat Mitzvot. Bien, il y avait juste une question là-dessus, puis je vous donne la
parole. Juste pour préciser encore une fois, ça veut dire que s'il y a 9
juifs,
on
ne peut pas prendre
un juif
qui s'est
converti pour
terminer un. Non. Son fils, oui. Ça m'appelle une histoire. C'était une histoire qui a été vécue d'ailleurs. C'était un juif qui était devenu curé. Et le jour où il s'est aperçu qu'il pouvait être vraiment Israël et avoir des enfants, il est redevenu juif. Comme quoi tout arrive. Bien. Et alors, c'est le fait, donc, nous avons un événement ponctuel, Hanouka inauguration, c'est la victoire des Maccabées, réinauguration du temple. On retrouve notre souveraineté politique avec tout ce que cela implique du point de vue de l'être hébreu. Et un deuxième niveau, c'est la lutte contre ce qu'on appelle en hébreu les Mityavnim, en français c'est les Hellénisants. Mais je dirais, Mityavnim, c'est beaucoup plus clair en hébreu, c'est-à-dire les membres du peuple d'Israël qui ont accepté cette dénaturation d'identité que les Grecs voulaient imposer à la nation tout entière. À la nation tout entière, ils n'ont pas réussi. Ça, c'est Hanouka au niveau de l'événement ponctuel, la victoire des Maccabées, d'où Hanouka inauguration. À l'échelle individuelle, ils ont réussi, puisqu'ils ont fabriqué des Mityavnim à l'intérieur de la nation d'Israël. Alors, le premier événement est irréversible, c'est une victoire pure et simple, c'est Shalem, Ken, alors que le deuxième enjeu n'est pas achevé. Voilà le thème que nous allons étudier. Et alors, l'enseignement préface encore du Paraditrak à ce sujet, c'est de relier cela avec le problème du changement de nom Jacob-Israël. Et je vous rappelle très brièvement quel est le sujet du point de vue de l'enseignement de la Torah, tel que la Torah l'enseigne, c'est que Jacob a lutté avec l'ange d'Ésaü. Ce n'est pas notre sujet maintenant, donc j'explique que très très rapidement qu'est-ce que représente cette notion de l'ange d'Ésaü pour cet enseignement de la Torah. C'est-à-dire chaque manière d'être homme a un génie propre qui fait partie du projet du Créateur pour l'homme. Le projet du Créateur pour l'homme a autant de visages qu'il y a de réalité, de manière d'être homme au niveau concret. Et ces génies humains sont appelés les sarim de chaque nation. C'est clair pour tout le monde, okay. Et je crois qu'ici le français nous aide. Le mot de génie a les deux sens. Le génie dans le sens de le génie d'un peuple, le génie d'une culture, et d'autre part, un niveau des anges qui, qui s'appellent en hébreu les Sarim, les princes célestes, et on pourrait admettre, utiliser la signification démonique, je dirais pas démoniaque, du mot génie, les chédim, par exemple, ça c'est démoniaque, mais démonique, ça peut être positif. Un génie, au temps où les hommes savaient encore qu'est-ce que c'était que les fées, les génies, les farfardés, en français, tous ces êtres dont les modernes ont perdu complètement notion. On peut admettre que c'était le produit de l'imagination païenne, mais si on demande aux païens, mais ils disent non, ils font allusion à des réalités dont ils avaient expérience. Je referme la parenthèse. Okay. Eh bien, Jacob doit se mesurer avec le génie d'Ésaü. Or, il y a dans le texte de la Torah deux indications qui semblent apparemment contradictoires. C'est que cet ange d'Ésaü, ce génie d'Ésaü, a été vaincu par Jacob. C'est clair. Et c'est là que Jacob reçoit le nom d'Israël. Mais, et la Torah le formule, Vayar kilo yachol lo. Ce génie d'Ésaü a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre à Jacob. Vayar kilo yachol lo. Mais, d'autre part, Jacob est blessé à la hanche. Alors, il semble y avoir une contradiction. En fait, Jacob a triomphé de l'ange d'Ésaü et donc a reçu le nom d'Israël, et cependant, il est blessé. Il est atteint. Vatekar, Bekaf, Rekaf, Yerecho, à la pomme de l'ange. Bien. Et ce n'est qu'après que la Torah raconte que à la fin de la nuit, Vaizrachlo Hashemesh, quand le soleil brillera pour lui, il arrive Shalem dans sa perfection. Ça veut dire qu'il y a un événement qui est irréversible. Une fois pour toutes, nous savons que Jacob a triomphé d'Ésaü, qu'il a le nom d'Israël. Mais il en est blessé. Et jusqu'à ce que cette blessure ne soit guérie, il se nomme de nouveau Jacob dans certaines circonstances de son histoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, le parallèle que le Parham Israq fait avec Hanouka, et vous me direz si c'est suffisamment clair, on embraye dans le sujet lui-même, c'est que au niveau Hanouka, l'événement de la victoire des Maccabées contre les Grecs, c'est irréversible. Ça, c'est Jacob ayant vaincu l'ange d'Ésaü et recevant le nom d'Israël. Cependant, au niveau des Mithyavnim, ça, c'est la blessure à la hanche de Jacob. Et tant qu'elle n'est pas guérie, alors il y a cette dualité de nom Israël qui est quand même Jacob, Jacob qui est quand même Israël. La différence, la distinction, nous pouvons la comprendre d'après le principe qui nous vient de la Torah du Rav Kook, la différence au niveau collectif et au niveau individuel. Au niveau collectif, Israël est déjà irréversiblement Israël parfait. Au niveau individuel, il est encore atteint à cette blessure de l'ange. Or, le Talmud a expliqué, ou a interprété, si vous voulez, cette blessure de l'ange à propos des malédictions éventuelles que le peuple d'Israël risque de rencontrer dans son histoire, c'est dans la paracha de Berukotai, c'est que les pires ennemis d'Israël sortent d'Israël lui-même. Bachem umikem. Et le Talmud a expliqué, il s'agit, et ça se dévoile, d'Orashmad, dans les générations, ou dans les époques, où se produit de nouveau quelque chose d'analogue à ce que les Grecs voulaient faire, où on impose une dénaturation d'identité aux Juifs, à Israël. Lorsque on voit que de la descendance de Jacob, quelqu'un se dénature dans son identité en ayant en français se convertir à une identité étrangère. Alors c'est là que ça se réalise. C'est là que ce modèle de la blessure à la hanche de Jacob se réalise dans l'existence. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur la traduction qu'on donne en français du Guy d'Anaché. Le Guy d'Anaché, c'est le nerf qui innerve cette partie de la hanche où Jacob a été atteint. Guy d'Anaché. On a l'habitude de traduire cela, enfin les traducteurs traduisent cela par l'expression le nerf sciatique. Je ne sais pas s'il y a des biologistes ou des médecins parmi vous, mais il ne s'agit pas du tout du nerf sciatique. Bien qu'on ait pris l'habitude de dire le nerf sciatique. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu cela, que la sciatique, on appelle ça dans certains milieux médicaux la maladie des juifs, la maladie de Jacob. Il paraît que les juifs sont sensibles à cela, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être une coïncidence. En réalité, le guide anaché, c'est le nerf qui innerve les organes sexuels. C'est-à-dire, c'est le nerf qui commande l'engendrement, la descendance. Et ça veut dire que Jacob a été atteint dans sa descendance à l'échelle individuelle de son koach haholada, alors que, du point de vue de son identité, de sa personne, le triomphe est déjà assuré. Bon, je ferme la parenthèse de cette analyse de préface pour dire que l'événement ponctuel, lui, est irréversible, mitzvah de Hanouka de commémorer la victoire des Maccabées contre les Grecs. Mais il y a quelque chose d'inachevé, Israël se nomme encore Jacob, dans certaines circonstances, la victoire contre les Midianim n'a pas réussi complètement, n'est pas achevée. Ou je pourrais le dire de la façon inverse, ce serait peut-être un peu plus clair. Ce que les Grecs entreprenaient dans la dénaturation d'Israël à l'échelle collective a échoué pour les Grecs. Mais ce qu'ils ont entrepris à l'échelle individuelle, ça n'a pas complètement échoué. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Bien. Alors c'est donc le deuxième sens du verset « Hanor, Hanar, Lefidarko » qui est utilisé, qui sera utilisé pour le problème de la lutte contre les Mitiavnim. Alors que dans le premier, eh bien, c'est déjà acquis et c'est déjà irréversible. Voilà. Alors, je vais lire un texte assez rapidement parce que il est quand même un peu long pour l'explication de chaque mot, okay, et où le Paranisraq va élargir ce sujet en expliquant quel a été l'enjeu de cette lutte. Des Maccabées et des Grecs en ce temps. Kach shanu hachamim. Voici ce que ont enseigné nos sages. Et on cite dans cet enseignement un verset du Cantique des Cantiques qui s'étudie pour lui-même et qui va être utilisé par une dracha dans la Gemara. Pitrili ahoti rayati yonati tamati. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit, le bien-aimé dit à la bien-aimée. Ouvre-moi ta porte, Achoti, ma sœur, Rayati, mon aimé, Yonati, ma colombe, Tamati, ma parfaite. Vous connaissez ce verset, je suppose. Bon. Achoti, be Babel, Rayati, be Madai, Yonati, be Yavam, Tamati, be Edom. Dans la comparaison que fait le Midrash, Shirachirim, c'est le dialogue entre Dieu et Israël. Alors Dieu dit à Israël, ma sœur, ça c'était au temps de l'Empire de Babel, des événements de l'exil de Babel. Rayati, mon aimé, Madai, c'est le temps de la Perse. Yonati, ma colombe, Beyavan, au temps de la Grèce. Tamati, ma parfaite, Beedom, au temps de Rome. Et nous avons de nouveau un parallèle, qui est souvent cité dans les sources, entre les quatre grands empires que l'histoire d'Israël traverse, et l'identité d'Israël confrontée, interpellée par le problème que pose la revendication d'identité de ces quatre empires successivement. Alors là, il y a encore quatre niveaux de la définition d'Israël, comme Achot, comme Ra'ya, comme Yona, comme Tama. Et Yonati, c'est Yavan. Velama, Kore, Yonati, Beyavan. Je continue la citation du Talmud. Et pourquoi Dieu nomme Israël ma colombe au temps de la Grèce? Shehayu makrivim beyamim beyameha, parce qu'en ce temps-là, on avait l'habitude d'apporter en sacrifice torim ou bneyona, des colombes et des pigeons, al gavé amizvehar, sur l'autel. Les medim anumikan, nous apprenons de là, qui, au fio amiuchad shel shirbud yavan, le caractère spécifique de l'esclavage de shirbud, l'oppression de la Grèce, ou baiser, et en cela, chez Malchut Yavan, que la royauté de la Grèce, l'empire de la Grèce, hi a Malchut a Yechida, est l'unique empire, Benkol a Malchuyot, parmi tous les empires, chez Nishtar Bedou, Israël et Tzlan, qui ont opprimé Israël en Israël même, et Tzlan, chez eux, Israël. Asher, kol mesher yemeish tabuta, puisque pendant tout le temps de cette oppression, Halou, tout ce temps-là a eu lieu, Bisman, Shabbat, Amidash, Ayakayam, au temps où le temple existait. Mahu Mashmaruto Apnimi Shelichu Dufize. Quelle est la signification intérieure de cette spécificité? Iné Kibalnu Meravotenu. Nous avons reçu en tradition de nos maîtres, entre parenthèses, et il s'agit du livre du Maharal, le Ner Mitzvah, dont on a étudié un passage lundi dernier, qui, Nes Amenora, nous avons reçu en tradition que le miracle de la Menora, Haya Meyuchad, Legulat Yavan, est spécifique de la délivrance du temps de la Grèce, Mipenesh Amenora, parce que la Menora, le candélabre, Mityacheset Hi, se réfère, El Koach HaRochma, à la force de la sagesse. Haout, et il y a dans Haout Zepa, il y a dans la Gemara, d'autre part, l'enseignement suivant, qui doit vous être familier, Haoutze, chez Yarkim Yadrim, celui qui veut devenir sage doit habiter au sud. Mais Haoutze, les Archir Yaspin, celui qui veut devenir riche doit habiter au nord. Bon, il y a des significations proprement spirituelles à cela. C'est quand même frappant de voir que dans la géopolitique mondiale, les pays riches sont au nord et les pays sages sont au sud. La philosophie, ce n'est pas un phénomène nordique. Et la banque n'est pas un phénomène sudiste. Le signe en Kham, mais le signe qui est donné dans le temple, c'est Menorah Badarom. La Menorah était installée au sud dans l'emplacement du temple. Or, l'essentiel du propos de Yavan, est dans la capacité de sagesse, Amiochadla, qui lui est propre, et cela nous en avons souvent parlé. Ce qui caractérise le génie de la Grèce a été une certaine conception du monde qui a permis l'éclosion des sciences et des techniques que nous connaissons. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Toutes les cultures ont eu des sciences et des techniques, mais ce qui a commencé en Grèce est devenu universel. Je veux dire, le monde entier a pour modèle l'intuition grecque concernant la science et la technique. Ça a pris des siècles pour devenir ce que nous appelons la science, la technique en général dans l'ère actuelle, mais c'est surtout l'indice de l'universel qui doit être mis en évidence. Est-ce que c'est suffisamment clair? Il se produit deux phénomènes parallèles, un avec Israël et un avec la Grèce, que je voudrais rattacher très rapidement à ce qu'enseigne la Torah lorsqu'elle parle de la perte de la langue unique. L'humanité avait connu le temps de l'universel avant la tour de Babel. Le signe était que l'humanité parlait une langue commune, la langue unique. Cette langue unique a disparu et il y est resté les langages particuliers, d'où la confusion des langues et d'où la diaspora des nations, la diaspora des cultures, avant même qu'Israël n'apparaisse dans le projet messianique de restauration de l'universel. Or, l'humanité, depuis ce temps-là, est à la recherche de la langue unique. Un phénomène comme l'espéranto, et je sais qu'il y a d'autres vocabulaires que l'espéranto, mais je sais, j'ai oublié les détails, je sais que derrière l'espéranto, il y avait un juif. C'est exact, tel. Et il se passe quelque chose entre les juifs et l'espérance, d'où l'espéranto. Et c'est une exigence de l'universel qui s'exprime au niveau le plus profond de l'identité humaine, c'est-à-dire le langage. Il y a d'ailleurs dans la linguistique contemporaine la recherche d'une langue unique. En littérature, je me souviens que j'ai appris cela avec Mallarmé. Mallarmé cherchait la langue poétique unique. C'est bien Mallarmé, oui. Vous ne vous rappelez pas de vos études C'était lui. Okay. Et il devait être Mallarmé pour ça. Mais en tout cas, au fond, ce qu'il cherchait, c'est l'hébreu. Si j'ose. Alors, je reviens à mon problème de la langue unique. Il n'y a pas de doute que les Grecs ont réussi à rétablir un langage universel unique pour tout ce qui concerne la connaissance du monde matériel. C'est-à-dire le langage des sciences, c'est la mathématique, et ça a été le génie de la Grèce d'avoir permis d'instaurer, c'est plus tard que les Grecs, mais ça commence là, d'avoir instauré un langage unique des sciences. Le système des sciences modernes serait impossible sans cette instauration de la mathématique comme langage des sciences. C'est que toute exploration de la connaissance devient scientifique quand son langage devient mathématique. C'est bien clair. Et c'est irréversible à l'échelle universelle. Ce qui fait que des savants de toutes les cultures, de toutes les nations, quelle que soit la différenciation diasporique de leur identité humaine, se comprennent parce qu'ils ont une langue universelle pour tout ce qui concerne l'exploration de la matière. C'est clair jusque-là ? Bon, ça c'est le génie de la Grèce. C'est probablement la kavana, l'intention profonde des textes qui parlent de la langue grecque comme véhicule de la beauté, mais disons de l'harmonie, donc de la de l'ordre du monde extérieur. Et dans l'autre cas de la recherche de la langue universelle, c'est au niveau non plus de la réalité matérielle, mais de la réalité spirituelle. Et en fin de compte, c'est un alors que la Grèce a achevé, si j'ose dire, son rôle dans l'histoire universelle, elle a donné à l'humanité, et c'est irréversible, et elle a disparu, quitté la scène de l'histoire, elle a donné à l'humanité la langue unique pour la matière. L'autre niveau de la langue unique, c'est la langue unique pour l'esprit. Et cela, c'est l'hébreu de la prophétie hébraïque, qui lui aussi a un impact universel. Lorsque dans l'universel humain, on recherche la langue unique des choses de l'esprit, on ne peut pas ne pas arriver à ce dont ont parlé les prophètes hébreux. Mais cela, c'est encore en cours d'histoire, c'est encore en contestation, en rivalité, inachevé. Pour le dire d'une autre manière, pour atteindre la langue unique, il faut l'atteindre de deux côtés. La langue unique pour dire la matière, la langue unique pour dire l'esprit. Et la langue unique pour dire la matière est déjà émergé dans l'histoire des cultures, et c'est la Grèce qui l'a donné. La langue unique pour les choses de l'esprit est en cours. Elle a émergé une fois pour toutes au niveau de l'événement ponctuel, les prophètes hébreux, mais ce n'est pas, comment dire, ce combat n'est pas encore achevé. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je viens d'expliquer? Alors c'est très frappant de voir que pour la sagesse de la Kabbalah, la langue unique a précisément ces deux versants. Chaque mot a une signification dans l'ordre de la qualité et une signification dans l'ordre de la quantité. Chaque mot a sa valeur numérique. C'est-à-dire c'est un langage qui unifie et la vision mathématique du monde et la vision qualitative du monde. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Okay. D'ailleurs, les kabbalistes ont toujours été habitués à cela, c'est qu'un langage a simultanément deux registres de signification. Lorsqu'un kabbaliste a sous les yeux un chapitre de la Torah, il a en même temps sous les yeux un message qui s'adresse au sujet humain, intellectuel, spirituel, dans l'ordre de la compréhension des significations, l'ordre de la qualité, et en même temps une page d'équation. Et il lit cela simultanément comme cela. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Alors tout se passe comme si cette langue unique est cassée en deux. Il y a la lecture spirituelle du monde d'un côté, la lecture mathématique du monde de l'autre, et lutte entre les deux. Et donc, on comprend pourquoi nos maîtres ont parlé de cette inévitable tension, conflit, rencontre entre ces deux génies, la Grèce d'un côté, Israël de l'autre. Je voudrais anticiper sur la suite par une parenthèse qui concerne un autre sujet mais qui est relié à ce moment de l'analyse, et c'est ceci. Lorsque l'hébreu s'occupe du problème du grec, il peut y collaborer et il peut l'aider. Je veux dire, l'hébreu peut aider le grec dans son travail, c'est-à-dire à faire de la mathématique. Et à ce moment-là, il hellénise dans un sens légitime, parce que c'est l'objet légitime de la Grèce. Et donc, un hébreu peut devenir prix Nobel de mathématiques. De mathématiques, ça veut dire de physique, de chimie, de n'importe quoi. Okay. En réalité, il y ajoute quelque chose, une nuance qui n'est pas vraiment grec, et ça on le sait dans l'histoire des sciences. Je prends par exemple le vocabulaire qui avait autant de Descartes et de Pascal. Vous rappelez de la lutte entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Je me reviens, c'est ça? Pascal, l'esprit de finesse, et Descartes, l'esprit de géométrie, c'est ça? Donc, eh bien, disons que, un peu dans cet ordre d'idée, lorsqu'un juif fait des mathématiques, eh bien, il ajoute un peu d'esprit de finesse dans l'esprit de géométrie. Je n'ai pas voulu dire que Pascal était juif. Mais ça va un peu dans ce sens-là. Je pense par exemple aux mathématiques parallèles qui, comme vous le savez, ont eu derrière des mathématiciens juifs. Je pense en particulier à Cantor, ça c'est ce que j'ai appris dans mes études, mais il y a sûrement d'autres systèmes que le sien. Et voilà donc un point où s'accroche ce conflit. Lorsque l'hébreu, encore une fois, s'occupe du problème du grec, et il aide